Intermède 3, Risne. Risne aimait faire comme si son pot d'herbe chinov n'était pas stupide, simplement méditatif. Assise près de la proue de son catamaran, elle tenait la peau sur son giron. La surface de la mer de Réchi, calme par ailleurs, ondulait sous l'effet des coups de pagaie du guide assis derrière elle. L'air humide et chaud faisait perler la sueur sur le front et le cou de Risne. Il avait sans doute recommencé à pleuvoir. Ici, en pleine mer, les précipitations étaient de la pire espèce. Non pas puissantes ou impressionnantes comme une tempête majeure, ni même insistantes comme une averse ordinaire. Ici, ce n'était qu'un voile de brume, davantage qu'un brouillard, mais moins qu'un crachin. Assez pour abîmer votre coiffure, votre maquillage et vos habits, tous les efforts que faisait une jeune femme prudente pour présenter un visage convenable lors d'échanges commerciaux. Risne déplaça le pot sur son giron. Elle avait baptisé l'herbe Tivnek, Mossad. Son Babsk avait éclaté de rire en apprenant son nom. Il comprenait. En nommant l'herbe, elle admettait qu'il avait raison et qu'elle avait eu tort. Ses affaires avec les Chinov l'an dernier s'étaient révélées exceptionnellement lucratives. Risne avait choisi de ne pas garder rancune qu'on lui ait montré ses torts. Elle laissait donc sa plante être Mossad à sa place. Il traversait ses eaux depuis 2 jours maintenant. Après avoir attendu des semaines au port un intervalle entre 2 tempêtes majeures pour s'aventurer dans la mer presque enclavée. Les eaux étaient aujourd'hui d'un calme stupéfiant, presque aussi sereine que celle du lac limpide. Vestim lui-même voyageait 2 bateaux plus loin dans leur flottille irrégulière. Manœuvrés par 2 nouveaux parches, les 16 catamarans élancés étaient chargés de marchandises achetées grâce aux gains de leur dernière expédition. Vestim se reposait toujours à l'arrière de l'embarcation. Il ressemblait à une pile d'étoffes qui se distinguait à peine des sacs de marchandises. Il allait s'en tirer. Les gens tombaient malades. Ça arrivait. Mais il allait guérir. Et le sang que tu as vu sur son mouchoir? Elle réprima cette pensée et se retourna sur son siège, déplaçant Tivnek dans le creux de son bras gauche. Elle gardait le pot extrêmement propre. Ce terreau dont l'herbe avait besoin pour pousser était encore pire que le crémon et présentait une certaine inclination à salir les vêtements. Gu, le guide de la flottille, naviguait dans son propre bateau, juste derrière elle. Il ressemblait beaucoup à un limpidien avec ses membres allongés, sa peau tannée et ses cheveux sombres. Cependant, tous les limpidiens qu'elle avait rencontrés se souciaient beaucoup de leur dieu. Elle doutait que Gu se soit jamais soucié de quoi que ce soit. Pas même de les conduire à destination dans les temps.
« Vous avez dit que nous approchions ?» lui lança-t-elle.
« Ah, mais c'est le cas !»
répondit-il en levant sa rame avant de la baisser de nouveau dans l'eau.
« C'est pour bientôt !»
Il parlait plutôt bien le Thaïlène, raison pour laquelle on l'avait engagé. Ce n'était certainement pas pour sa ponctualité.
« Définissez bientôt !» lança Risne.
« Définissez ? Que voulez-vous dire par bientôt ?»«
Bientôt. Peut-être aujourd'hui. »«
Peut-être. Formidable. » Gu pagayait toujours, d'un seul côté du bateau, parvenant étonnamment à empêcher que l'embarcation ne décrive des cercles. À l'arrière, Kilrem, le chef de leur garde, jouait avec l'ombrelle de Risne qu'il ouvrait et refermait. Il semblait la considérer comme une incroyable invention, bien que ces choses-là soient populaires à Thaïléna depuis une éternité. Voilà qui démontre à quel point les employés de Vestim regagnent rarement la civilisation. Encore une pensée réjouissante. Eh bien, elle avait rejoint Vestim comme apprentie parce qu'elle voulait voyager dans des lieux exotiques. Et celui-ci l'était sans aucun doute. D'accord, elle avait cru qu'exotique et cosmopolite allaient de pair. Si elle avait eu un tant soit peu de jugeote, et elle n'était pas sûre d'en avoir beaucoup ces temps-ci, elle aurait compris que les commerçants qui connaissaient vraiment le succès n'étaient pas ceux qui allaient là où tout le monde voulait se rendre.
« C'est dur !»
répondit Gu, qui pagayait toujours à son allure léthargique.
« Les schémas sont décalés ces jours-ci. Les dieux ne marchent pas où ils devraient toujours le faire. Nous allons la trouver. Oui, nous allons y arriver. »
Risne étouffa un soupir et se retourna vers l'avant. Avec Vestim de nouveau immobilisée, elle se retrouvait chargée de diriger la flottille. Elle aurait aimé savoir où elle la menait, ou même savoir comment trouver leur destination. C'était tout le problème avec les îles mobiles. Les bateaux longèrent en glissant un groupe de branches qui perçaient la surface de la mer. Encouragés par le vent, des vagues modérées clapotaient contre les branches raides qui saillaient des eaux comme des doigts d'homme en train de se noyer. La mer était plus profonde que le lac limpide, dont les eaux l'étaient si peu que c'en était déroutant. Ces arbres devaient faire une bonne dizaine de mètres au minimum, avec une écorce dure comme la pierre. Gu les qualifiait de « ina », ce qui signifiait apparemment « mauvais ». Ils étaient capables de déchirer la coque d'un bateau. Parfois, ils dépassaient des branches qui se cachaient juste en dessous de la surface lisse, presque invisible. Elle ignorait comment Gu parvenait à les éviter. Sur ce point, comme sur tant d'autres, il devait simplement lui faire confiance. Que ferait-il s'il les conduisait vers une embuscade sur ces eaux silencieuses? Elle se réjouit soudain que Vestime ait ordonné à leur garde de surveiller son fabrial indiquant si des gens se trouvaient à proximité. Il... la terre. Rhys ne se leva dans le catamaran, qu'elle fit tanguer dangereusement. Il y avait effectivement quelque chose un peu plus loin. Une ligne sombre et distante.
« Ah !» déclara Gu. « Vous voyez ? Bientôt !»
Rhys ne resta debout et demanda d'un signe qu'on lui apporte son ombrelle quand une petite pluie fine se mit à tomber. L'ombrelle ne se révéla pas très utile, bien qu'elle ait été cirée afin de servir également de parapluie. Tout à son excitation, Rhys y réfléchit à peine, guère plus qu'à ses cheveux de plus en plus crépus. Enfin. L'île était beaucoup plus grande qu'elle ne s'y attendait. Elle l'avait imaginée comme un immense bateau, pas comme cette haute formation rocheuse saillant des eaux à la manière d'un rocher émergeant d'un champ. Elle était différente de toutes les îles qu'elle avait déjà pu voir. Elle ne semblait pas comporter de plage, et elle n'était pas basse et plate mais montagneuse. Les flancs et le sommet, depuis tout ce temps, n'auraient-ils pas dû être usés par l'érosion ? Ce qu'elle est verte ? Commenta Rhys tandis qu'ils approchaient.
Les Taïna sont un bon endroit où grandir, répondit Gu. Un bon endroit où vivre, sauf quand ils sont en guerre.
Quand deux îles se rapprochent trop, précisa Rhys. Elle avait lu à ce sujet lors de sa préparation, bien que peu d'érudits s'intéressent assez aux Réchis pour écrire sur eux. Des dizaines, peut-être des centaines de ces îles mouvantes flottaient dans la mer. Leurs habitants menaient des vies simples, interprétant les mouvements des îles comme une volonté divine.
Pas toujours, répliqua Gu en gloussant de rire. Parfois, avoir des Taïna proches est une bonne chose, et parfois mauvaise.
Qu'est-ce qui le détermine ? Demanda Rhys.
Eh bien, le Taïna lui-même.
C'est l'île qui décide, conclut Rhys d'une voix blanche pour se moquer de lui. Quel primitif! Qu'espérait donc gagner son Babsk en faisant commerce ici? Comment une île peut-elle... Puis l'île bougea devant eux. Mais pas en dérivant, comme Rhys ne l'avait imaginé. La forme même de l'île changea. Les pierres se mirent à se tordre et à onduler. Une grande section rocheuse se souleva en un mouvement qui semblait léthargique, jusqu'à ce qu'on prenne en compte sa grande échelle. Rhys ne s'assit lourdement, les yeux écarquillés. La pierre, la patte, se souleva dans un ruissellement évoquant la pluie. Elle se projeta en avant, puis retomba dans la mer avec une force incroyable. Les Taïna, les dieux des îles de Réchi, étaient des magnecoques. C'était la bête la plus grande qu'elle ait jamais vue, ou dont elle ait même entendu parler. Assez massive pour faire passer les monstres mythologiques, comme les démons des gouffres de la lointaine Natanatan, pour de simples cailloux en comparaison. Pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit ? Demanda-t-elle en se retournant vers les deux autres occupants du bateau. Kilerm, ne serait-ce que lui, aurait tout de même pu l'en informer.
Il vaut mieux voir par soi-même, répondit Gu, pagayant avec sa posture détendue habituelle. Son sourire narquois ne plut guère à Rhys.
Et vous privez de ce moment de découverte ? Interrogea Kilerm. Je me rappelle la dernière fois que j'en ai vu un bouger. Ça mérite qu'on ne gâche pas l'instant. On n'en parle jamais aux nouveaux gardes, à leur arrivée.
Rhys ne réprima son agacement et se retourna vers l'île. Maudit soit les récits imprécis qu'elle avait lus.
trop de oui-dire, pas assez d'expérience. Elle avait du mal à croire que personne n'ait jamais mis la vérité par écrit. Sans doute ne disposait-elle simplement pas des bonnes sources. Une légère bruine drapait l'énorme bête de mystère et de brume. Que mangeait une si grande créature? Remarquait-elle les gens qui vivaient sur son dos? S'en souciait-elle seulement? Kellec. À quoi ressemblait l'accouplement pour ces monstres? Elle devait être très ancienne. Quand le bateau pénétra dans son ombre, Risne vit la verdure qui poussait sur sa peau rocheuse. Des monticules de schiste écorce formaient de larges champs de couleurs vives. La mousse recouvrait presque tout. Des lianes et des boutons de roche s'enroulaient autour du tronc de petits arbres qui avaient trouvé prise dans des fissures entre les plaques de la carapace. Gu leur fit contourner la patte arrière, en gardant une distance largement respectueuse, au grand soulagement de Risne, puis se rapprocha de la créature au niveau du flanc. Ici, la carapace plongeait dans l'eau, créant une plateforme. Risne entendit les gens avant de les voir, car leur rire s'élevait parmi les éclaboussures. Comme la pluie cessait, Risne baissa son parapluie et le secoua au-dessus de l'eau. Elle aperçut enfin les gens, un groupe de jeunes hommes et femmes qui montaient sur une saillie de la carapace pour sauter dans la mer. Il n'y avait rien là de surprenant. L'eau de la mer de Réchi, comme celle du lac limpide, était remarquablement tiède. À une occasion, Risne s'était aventuré dans l'eau près de son pays natal. Ça avait été une expérience glaciale, du genre que personne n'entreprenait quand il avait toute sa tête. Lorsqu'on se baignait dans l'océan, il y avait très souvent de l'alcool et de la bravade en jeu. Elle devinait cependant que les nageurs devaient être chose commune ici. Elle ne s'était pas attendue à les voir dévêtus. Risne rougit violemment lorsqu'un groupe la dépassa en courant sur un affleurement de la carapace qui évoquait un quai, aussi nu qu'au premier jour. De jeunes hommes et femmes tout à la fois, qui se moquaient bien de savoir qui les voyait. Elle n'avait rien d'une prude à Letty, mais Kellec. N'aurait-il pas dû porter quelque chose? Des sprènes de honte tombèrent tout autour d'elle, sous forme de pétales de fleurs rouges et blancs qui dérivaient au vent. Derrière elle, Gu gloussa de rire. Killer me l'imita. « Ça non plus, c'est un point auquel on ne prépare pas les nouveaux arrivants. » « Quel primitif !» songea Risne. Elle n'aurait pas dû rougir ainsi. Elle était adulte, enfin presque. La flottille poursuivit en direction d'une section de carapace qui formait une sorte de quai. Une plateforme basse, en majeure partie suspendue au-dessus de l'eau. Ils s'installèrent pour attendre, sans qu'elle sache quoi au juste. Au bout de quelques instants, la plateforme eut un mouvement brusque, ruisselant d'eau, quand la bête fit un nouveau pas léthargique. Des vagues se mirent à clapoter contre les bateaux. Quand tout s'immobilisa, Gu guida l'embarcation vers le quai. « Montez !» dit-il. « Est-ce qu'on amarre les bateaux quelque part ?» demanda Risne. « Non, ce serait dangereux avec le mouvement. Nous allons reculer. Et la nuit, comment amarrez-vous les bateaux ?»«
Quand nous dormons, nous déplaçons les bateaux attachés ensemble. Nous dormons là. Et nous retrouvons l'île au matin. »
« Ah !» répondit Risne, qui inspira pour se calmer et s'assura que son pot d'herbe était soigneusement rangé au fond du catamaran. Elle se leva. Voilà qui n'allait pas épargner ses chaussures, qui lui avaient coûté très cher. Elle avait l'intuition que les Réchis s'en moqueraient bien. Elle pouvait sans doute rencontrer leur roi pieds nus. Passons. D'après ce qu'elle avait vu, elle devait même pouvoir le rencontrer torse nu. Elle monta prudemment et se réjouit de constater que la carapace n'était pas glissante, bien qu'elle soit enfoncée dans l'eau sur 1 ou 2 centimètres environ. Killer me monta avec Risne, et elle lui tendit l'ombrelle repliée, puis recula et attendit que Gu ait fini de manœuvrer son bateau. Un autre rameur amena son embarcation à la place. Un catamaran plus long où des parches l'aidaient à ramer. Le babsque de Risne était pelotonné à l'intérieur, enveloppé dans sa couverture malgré la chaleur, la tête appuyée contre l'arrière du bateau. Sa peau blême avait une teinte cireuse. « Babsk, lui dit Risne, le cœur serré, nous aurions dû faire demi-tour. »« Ne dis pas de bêtises,
répliqua-t-il d'une voix frêle, souriant malgré tout.
J'ai déjà enduré pire. L'échange doit avoir lieu. Nous avons déjà trop fait pression.
Je vais aller trouver le roi et les commerçants de cette île, répondit Risne, et je leur demanderai de venir ici pour qu'ils puissent négocier avec vous sur les quais.
Vestime toussa dans sa main. Non, ces gens-là ne sont pas comme les Chinoves. Ma faiblesse gâchera la marchandise.
L'audace, il faut se montrer audacieux avec les Réchis.
Audacieux ? Répéta Risne en se tournant vers le guide du bateau, qui se prélassait avec les doigts dans l'eau.
Babsk, les Réchis sont un peuple détendu. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui leur importe.
Alors tu seras surprise, répondit Vestime. Il suivit son regard en direction des nageurs tout proches, qui riaient tout en sautant dans les eaux. La vie peut être simple ici, en effet. Elle attire ces gens-là comme la guerre attire les sprennes de douleur.
Attirée.
L'une des femmes passa près d'eux en gambadant, et Risne remarqua, stupéfaite, qu'elle avait des sourcils taïlène. Comme sa peau était brunie par le soleil, la différence de teint ne lui était pas apparue immédiatement. Passant les nageurs en revue, Rhys n'en vit d'autres. Deux qui étaient sans doute herdasiens, et même un Aléti. Impossible.
Les gens viennent ici volontairement, expliqua Vestime. Ils aiment la vie des Réchis. Ici, ils peuvent se contenter de suivre l'île, se battre quand elle veut en affronter une autre, se détendre le reste du temps. Il y a des gens comme cela dans toutes les cultures, car chaque société se compose d'individus. Tu dois apprendre cette leçon. Ne laisse pas tes suppositions sur une culture entraver ta capacité à percevoir les individus, sinon tu échoueras.
Elle hocha la tête. Bien qu'il semble très frêle, ses paroles étaient fermes. Elle s'efforça d'ignorer les nageurs. Le fait qu'au moins l'un d'entre eux soit un de ses compatriotes l'embarrassait encore davantage.
Si vous n'êtes pas capable de marchander avec eux, commença Risne.
Alors c'est toi qui dois le faire.
Risne eut soudain très froid malgré la chaleur. C'était ce pourquoi elle avait rejoint Vestime, n'est-ce pas? Combien de fois avait-elle souhaité qu'il la laisse prendre les devants? Pourquoi se sentir si timorée à présent?
Elle lança un coup d'œil vers son propre bateau qui s'éloignait, emportant son pot d'herbe. Puis elle retourna vers son Babsk.
Dites-moi ce que je dois faire.
Ils en savent beaucoup sur les étrangers, répondit Vestime. Bien plus que nous n'en savons sur eux. C'est parce que nous sommes très nombreux à venir vivre parmi eux. Beaucoup de Réchis sont aussi insouciants que tu le vois, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Ceux-là préfèrent se battre, et un marchandage est comme un combat à leurs yeux.
Au mien aussi, précisa Risne.
Je connais ces gens, poursuivit Vestime. Nous devons prier les passions que Talik ne soit pas là. Il est le meilleur d'entre eux et part souvent faire commerce avec les autres îles. Quel que soit celui ou celle que tu rencontreras pour marchander, il ou elle te jugera comme tu jugerais un rival au combat. Et pour eux, la bataille est une question de posture. Un jour, j'ai connu la malchance de me trouver sur une île pendant la guerre. Il s'interrompit pour tousser, mais refusa la boisson que lui proposa Kilrem. Tandis que les deux îles s'affrontaient, les gens descendaient dans des bateaux pour échanger des insultes et des fanfaronnades. Chacun des camps commençait par son élément le plus faible, qui criait des fanfaronnades, puis progressait jusqu'au meilleur en une sorte de duel verbal. Ensuite, venaient les flèches et les lances, les corps à corps sur les bateaux et dans l'eau. Heureusement, il y avait davantage de cris que de véritables blessures.
Risne hocha la tête, la gorge serrée.
« Tu n'es pas prête pour ça, mon enfant, » lui dit Vestime.
« Je sais. »«
Parfait. Enfin, tu le comprends. Vas-y maintenant. Ils ne nous tolèreront pas longtemps sur cette île, à moins que nous acceptions d'y rester de façon permanente. »«
Ce qui impliquerait ?» questionna Risne.
« Eh bien, pour commencer, de donner tout ce que tu possèdes à leur roi. »«
Charmant, » répondit Risne en se levant. « Je me demande à quoi il ressemblerait avec mes chaussures. »
Elle inspira profondément.
« Vous ne m'avez toujours pas dit quel est l'objet du marchandage. »
« Ils le savent, » l'assura son Babsk, pris d'une nouvelle quinte de toux. « Votre conversation ne sera pas une négociation. Les termes ont été fixés il y a des années. »
Elle se tourna vers lui, pensive.
« Pardon ?»«
La question n'est pas ici de savoir ce que tu peux obtenir, » répondit Vestim. « Mais ils estiment que tu le mérites.
Tu dois les en convaincre. »
Il hésita. « Puissent les passions te guider, mon enfant. Fais de ton mieux. »
Ces derniers mots sonnaient comme une supplication. Si leur flottille se faisait chasser, le coût de cette négociation ne résidait pas dans les biens. Bois, étoffes, fournitures simples achetées à bas prix. Mais dans l'armement d'un convoi. Dans le fait de voyager si loin, de payer des guides, de perdre du temps à attendre une pause entre deux tempêtes. Puis encore du temps à chercher la bonne île. Si on la rejetait, ils pourraient encore vendre ce qu'ils avaient, mais au prix d'une perte désastreuse, compte tenu de l'ampleur des frais engagés dans ce voyage.